est un exercice qui n'est pas facile, hein, puisque vos enseignants donc m'ont demandé de tenter devant vous de comparer le fascisme et le national-socialisme. La comparaison est un exercice intéressant en histoire. Il existe même une démarche qu'on appelle l'histoire comparée. Et pour comparer, il faut bien évidemment avoir des objets donc, qui ont suffisamment de points communs donc, pour que la comparaison ait un sens, puisque le but de la comparaison, c'est à la fois d'établir des parentés donc, et de signaler des différences. Alors, je ne vous ferai pas un cours d'histoire du fascisme et du national-socialisme, puisque je suppose que vous l'avez donc déjà étudié, hein, mais j'essaierai vraiment de me livrer donc à cet exercice qu'on m'a demandé. Alors, trois remarques en introduction avant d'entrer dans le vif du sujet. D'abord, il faut savoir qu'il y a des bibliothèques entières de livres d'histoire et de sciences politiques qui ont été écrits sur le fascisme et sur le national-socialisme. Et l'une des questions importantes que se posent les chercheurs, c'est justement le fait de savoir s'il est possible ou non de comparer ces deux régimes. La question même de la comparaison est une question que se posent les historiens et les chercheurs de sciences sociales. Ceux qui ont beaucoup comparé ces régimes, et quelquefois ces régimes avec d'autres régimes, notamment le communisme, sont des politologues, des sociologues, parce qu'en comparant, ils ont essayé de constituer une forme de modèle, de dire voilà ce qu'est l'essence du fascisme et voilà quelles sont les caractéristiques communes des régimes fascistes. Les historiens sont plus réticents à faire cela, et il y a moins de travaux d'historiens où on tente la comparaison, parce que vous le savez, les historiens cherchent d'abord à contextualiser, hein, à remettre comment dirais-je, ces régimes dans le contexte de leur époque, et en général, on voit plutôt les différences. Jusqu'à récemment, justement, on mettait plutôt l'accent sur les différences entre le fascisme et le national-socialisme. Et l'un des grands historiens, l'un des historiens majeurs du fascisme en Italie, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Renzo De Felice, qui est mort il y a quelques années, eh bien, estimait que justement, c'était à la fin deux régimes vraiment très très différents. Et on verra pourquoi on peut estimer qu'ils sont très différents. Cette approche-là, donc, qui mettait l'accent sur les différences, elle a prévalu jusqu'à il y a quelques années. Et aujourd'hui, de plus en plus, en Italie, mais pas seulement en Italie, on a tendance au contraire à considérer que finalement, ils ne sont pas si différents que cela. Notamment parce que on peut considérer que ce sont deux régimes totalitaires et que pour cela, il est pertinent, il est légitime donc de les comparer. Ça, c'est la deuxième observation donc que je voulais faire en introduction, c'est que si on tente une comparaison entre ces deux régimes, eh bien, on entre dans un autre débat qui est le débat donc relatif au totalitarisme. Alors, vous en avez peut-être déjà parlé aussi avec vos enseignants, mais je vous en dis quelques mots de ce débat. Le mot totalitaire est un mot qui apparaît pendant le fascisme, d'abord, qui est utilisé par les adversaires du fascisme, par les victimes du fascisme, pour le combattre, ce régime. Et je parle cette fois du fascisme italien. Parce qu'ils sont en prison, parce qu'ils se font tabasser par les militants du parti fasciste, parce qu'ils estiment que ce régime, et c'est ce qui va se passer effectivement, va abolir les libertés. Et puis le mot, il va être repris par les fascistes eux-mêmes, dans un sens positif, pour désigner ce qu'ils sont en train de construire, c'est-à-dire une société totalitaire, un régime où on contrôle tous les individus. Dans totalitaire, il y a total. Et donc l'idée d'un contrôle total qui s'exerce sur la société. Mais, donc, le mot naît dans l'opposition, ensuite, les fascistes eux-mêmes le réutilisent dans un sens positif, et puis après, ce mot, il entre dans le débat politique pour désigner, notamment, on oublie cette fois le cadre italien, pour désigner une parenté qui existerait essentiellement entre deux régimes, le national-socialisme et le communisme. Et cette idée d'une comparaison possible entre national-socialisme et communisme, elle apparaît donc déjà dans l'entre-deux-guerres. Mais les choses se compliquent parce que, à l'époque de la guerre froide, c'est là que ce vocable, cette notion de totalitarisme, donc après la Seconde Guerre mondiale, dans ce moment de grande tension entre l'URSS et les États-Unis, c'est là que ce mot se popularise avec cette fois une signification qui est une signification polémique, qui est une signification politique. C'est-à-dire que les adversaires du communisme emploient le mot totalitaire et totalitarisme pour mettre l'accent sur le caractère de terreur, le caractère liberticide, c'est-à-dire qui va à l'encontre des libertés, aussi bien du communisme que du national-socialisme. Donc il y a un contenu polémique, et certains historiens s'interdiront d'employer ce mot totalitarisme parce qu'il y a justement cette dimension polémique, parce qu'ils ont peur d'une instrumentalisation politique de ce vocable-là. Aujourd'hui, peut-être aussi parce que la guerre froide est derrière nous, les chercheurs de sciences sociales et les historiens utilisent plus volontiers ce mot totalitarisme parce qu'il a le mérite de mettre l'accent effectivement sur certaines caractéristiques de ces régimes, le fascisme, le national-socialisme et le communisme. Alors, ça met l'accent sur quoi ? Ça met l'accent en particulier sur le fait que, à un moment donné, pour des raisons parfois différentes, ces régimes ont établi un véritable système de terreur. Il y a une philosophe qui a beaucoup réfléchi sur ce phénomène du totalitarisme dont vos professeurs vous ont certainement parlé, qui elle-même a été victime du national-socialisme, qui a été obligée de quitter l'Allemagne du fait du national-socialisme. Cette philosophe, c'est Hannah Arendt. Hannah Arendt, dans l'après-guerre, A-R-E-N-D-T, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, après la guerre, elle publie une œuvre qui s'appelle « Les origines du totalitarisme », dans laquelle, justement, elle compare ces régimes. Alors, elle compare essentiellement le national-socialisme et le communisme. Le fascisme l'intéresse beaucoup moins, et elle dit d'ailleurs sur le fascisme des choses qui ne sont pas toujours exactes. Mais son but, c'est justement de comprendre ce qu'il y a de commun dans ces régimes et pourquoi ces régimes se sont établis. Je vous disais que ce sont essentiellement les politologues qui se sont livrés à cette approche comparée. Alors, parmi ces politologues, il y en a un qui s'appelle Karl Friedrich, qui a publié ses travaux dans les années 60, qui était un politologue américain, qui estime qu'il y a six caractéristiques au régime totalitaire. Je vous le dis parce qu'on n'est pas obligé de reprendre entièrement cette définition, mais elle peut nous aider à réfléchir. Les six caractéristiques sont les suivantes. Il existe dans ces régimes un parti de masse unique. Et on verra que ça se vérifie, en effet, pour le fascisme et le national-socialisme. Ces régimes ont à leur tête un chef charismatique. Ils sont fondés sur une idéologie contraignante, c'est-à-dire qu'on cherche à l'imposer à l'ensemble de la population. C'est un peu un dogme, hein, comme un dogme religieux. Ces régimes se caractérisent par une politique de terreur, c'est-à-dire qu'on terrorise les adversaires politiques et pas seulement une partie de la population. C'est la quatrième caractéristique. La cinquième, ils exercent un contrôle sur l'économie. Et enfin, ce sont des régimes propagandistes qui contrôlent tous les moyens de communication. Voilà ce portrait robot, en quelque sorte, qu'a construit Friedrich, hein, les critères peuvent varier de politologue à politologue ou d'historien à historien. Mais, encore une fois, je crois qu'il faut retenir ces critères simplement pour réfléchir et pour tenter donc de mener cette comparaison et d'analyser ces régimes. La dernière remarque préalable que je ferai, j'en ai fini avec mon introduction, c'est que la comparaison est de toute façon intéressante parce que les contemporains, les gens qui vivaient à l'époque du fascisme et du national-socialisme, pas seulement en Italie et en Allemagne, mais en Europe et dans le reste du monde, eh bien, eux-mêmes ont eu la tentation de comparer ces régimes. Hein, ont cherché à voir ce qu'il pouvait y avoir de commun. Et puis, dernière remarque, ces régimes se sont considérés eux-mêmes comme apparentés, tellement proches, qu'ils se sont considérés à un moment donné comme des alliés, hein, une alliance qui les a amenés à combattre contre les républicains espagnols pendant la guerre d'Espagne, une alliance qui les a amenés à former ce qu'on appelle, à partir de mai 1936, l'axe Rome-Berlin, donc, et qui les a amenés à devenir des alliés militaires à la veille de la Seconde Guerre mondiale, lors de la signature du pacte d'acier, et à combattre côte à côte, comme vous le savez, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, on pourrait comparer beaucoup de choses. Hein. On pourrait comparer, c'est un exercice classique, c'est un sujet de dissertation classique, par exemple, les conditions d'arrivée au pouvoir, hein, les origines du fascisme et du national-socialisme. Ce que je ne ferai pas. Je me contenterai ici de réfléchir sur ces fascismes une fois qu'ils sont installés au pouvoir, c'est-à-dire ce qu'on appelle le fascisme régime. Donc, et j'articulerai mon exposé en trois temps. D'abord, je tenterai donc de comparer les idéologies, les projets de société, donc les idées qui sont à la base, encore une fois, de ces constructions politiques, puis les systèmes politiques eux-mêmes, et enfin, je m'intéresserai plus particulièrement à l'impérialisme, à la politique de conquête, au racisme, donc qui a été mise en œuvre par ces deux régimes. D'abord donc, alors il faut qu'on change de diapo, d'abord l'idéologie et le projet de société. Dans quelle mesure les idées qui sont à la base de ces deux régimes, donc, sont-elles des idées proches, communes? Elles le sont d'abord en ce sens que le fascisme et le national-socialisme se définissent d'abord par opposition à certaines idées. Ils rejettent certaines valeurs, ils rejettent certains systèmes politiques qu'ils condamnent de la même façon. Ces systèmes, c'est la démocratie. Ils s'opposent en adversaire de la démocratie. Ils s'opposent en adversaire du libéralisme. et de ce qui accompagne le libéralisme, qui est l'individualisme, c'est-à-dire les droits de l'homme, les droits de l'individu. Pour les doctrinaires du fascisme, l'individu ne compte pas par rapport au parti, par rapport à la nation ou par rapport à la race. Hein, ce qui est important, c'est la collectivité, beaucoup plus que l'individu. Donc, il condamne la démocratie, il condamne le libéralisme, l'individualisme. De façon plus générale, et là, on peut faire une différence avec le communisme, il condamne les valeurs héritées de la philosophie des Lumières, hein, puisque c'est la philosophie des Lumières qui est à l'origine donc de la doctrine des droits de l'homme. Or, cela, il le récuse fondamentalement. Bien évidemment, il condamne le socialisme, le communisme. Il considère les communistes et les socialistes comme leurs adversaires politiques. Alors, bien sûr, dans national-socialisme, il y a le mot socialiste, mais le mot socialiste ne doit pas abuser. Hein, le sens de socialiste, c'est une certaine coloration sociale que l'on va donner à la politique, mais ça n'a rien à voir avec ce que l'on entend par socialisme. Donc, ils sont d'abord parents, proches, parce qu'ils sont contre, ils ont les mêmes adversaires. Mais ils ont aussi des valeurs communes, donc, positives, entre guillemets, c'est-à-dire ils ont un certain nombre de valeurs qu'ils essayent de promouvoir, donc, dans les sociétés nouvelles qu'ils veulent construire. D'abord, l'idée de nation, et même le nationalisme, hein, ce sont deux régimes fondamentalement nationalistes. Et là, le contexte, évidemment, dans lequel ils sont apparus, a une grande importance. Vous l'avez vu, je vous le rappelle brièvement, le parti fasciste et le mouvement national-socialiste sont apparus donc après la Première Guerre mondiale, dans deux pays qui étaient deux jeunes États-nations, qui avaient réalisé leur unité nationale tardivement, hein, par rapport à d'autres États démocratiques. Et ces deux pays considèrent qu'ils ont été lésés à l'issue de la guerre. Pour ce qui est de l'Allemagne, on pense en Allemagne que le traité de Versailles est un diktat qui a été imposé donc à l'Allemagne, et vous savez sans doute que le traité de Versailles établit la responsabilité de l'Allemagne, c'est le fameux article 231 du traité de Versailles, donc établit la responsabilité de l'Allemagne dans la guerre. Cette idée-là est refusée en Italie, et ce traité de Versailles donc est vécu en Allemagne comme étant une véritable blessure donc à l'orgueil national. L'Italie, c'est un peu pareil. Hein. L'Italie n'était pas dans le même camp pendant la Grande Guerre, mais elle estime qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle devait obtenir des traités d'après-guerre. Et en Italie, il y a un thème de propagande que les fascistes vont reprendre à leur compte, c'est le thème de la victoire mutilée. Les Italiens espéraient, à l'issue de la guerre, obtenir un certain nombre de terres situées dans le nord et dans le nord-est de la péninsule. Or, ils n'ont pas obtenu ces territoires, et donc ils s'estiment lésés. Hein. Il y a l'idée qu'en quelque sorte, l'Italie a été aussi un peu trahie, donc à l'issue de la Première Guerre mondiale. Ils sont donc fondamentalement nationalistes. La guerre est très présente dans l'idéologie des premiers fascistes. On peut dire que ces partis fascistes sont les héritiers de ce que les historiens appellent aujourd'hui la culture de guerre. La culture de guerre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que leur façon de penser, leur façon de se comporter, je parle de ces premiers militants fascistes ou nazis, a été en grande partie forgé, façonné par ce climat, donc bien particulier, de la Grande Guerre. D'abord, vous le savez sans doute, il faut rappeler qu'il y a beaucoup, parmi les premières troupes des partis fascistes, il y a beaucoup d'anciens combattants. Hein. Alors les anciens combattants sont des hommes jeunes à l'époque, mais qui ont fait la guerre et qui rejoignent effectivement donc ces partis fascistes naissants. Parmi ces anciens combattants, il y a même des hommes qui, pendant la guerre, appartenaient aux troupes de choc, hein, à l'élite des combattants de la Grande Guerre, et notamment en Italie, on les appelle les Arditi, A-R-D-I-T-I, ces Arditi. Ils ont constitué, à partir de l'été 1917, à un moment où l'Italie était en difficulté sur le plan militaire, eh bien, ils ont constitué des espèces de troupes de choc, on peut dire, qui montaient à l'assaut sur le front, donc lorsqu'il y avait des affrontements donc, avec l'ennemi. Et ces Arditi, ils avaient un rituel. Hein, c'était un peu comme des bandes, un peu comme des groupes. Ils avaient un certain nombre de cris de ralliement, de gestes en commun, de rituels. Par exemple, pour se retrouver, ils criaient « Anoi ». « Anoi » qui veut dire « à nous » en italien. Ils avaient également un geste de ralliement qui consistait à saluer en tenant un poignard pointé vers le ciel. Ces habitudes-là, elles vont être reprises par les premiers militants fascistes qui vont former les squadre d'azioni, les squadres, dont vous avez peut-être squadra, ça veut dire équipe, hein, c'est un mot qu'on emploie aujourd'hui encore en football, hein, en Italie, et donc ils vont rejoindre ces squadres et ils vont donner au fascisme eh bien, cette culture politique. En Allemagne aussi, la guerre est très présente, par le relais des anciens combattants et notamment dans ces formations qui se constituent après la guerre, que l'on appelle les corps francs, qui sont des espèces de troupes de mercenaires où il y a à la fois des anciens combattants, mais aussi des hommes qui n'ont jamais fait la guerre, qui étaient trop jeunes, mais qui sont fascinés par la guerre et qui seront d'ailleurs utilisés par la République de Weimar naissante pour réprimer les révolutions spartakistes hein, et communistes dont vous avez probablement entendu parler. Ce poids de la guerre, donc, il est essentiel hein, pour comprendre l'avènement des fascismes et pour comprendre ensuite la culture politique de ces régimes fascistes. Il faut savoir que ces régimes, avant la prise du pouvoir, mais après, ils sont fondamentalement bellicistes. Bellicistes, c'est-à-dire que les responsables fascistes n'hésitent pas à faire l'apologie de la guerre, à faire l'apologie de la violence et évidemment à condamner le pacifisme. Alors, bien évidemment, ils le font dans certains contextes. Hein. Vous trouverez des discours de Mussolini et de Hitler dans lesquels ils expliquent que ce sont les bienfaiteurs de la paix et que ce qu'ils veulent, c'est la paix du monde. Mais il arrive que dans d'autres contextes, eh bien, ils fassent l'éloge de la guerre. Alors, je peux vous lire, par exemple, ce que Mussolini écrit. Dans les années 30, dans une œuvre qui est une œuvre importante, qui est une encyclopédie italienne qui est créée à ce moment-là, qui est lancée par le régime fasciste, voilà ce qu'il dit de la guerre. La guerre seule porte les énergies au plus haut point de tension et imprime le sceau de la noblesse aux peuples qui ont le courage de l'affronter. Autrement dit, il y a chez Mussolini cette idée que les peuples se révèlent à travers la guerre hein, et que les hommes se révèlent leurs qualités individuelles, leur qualité de courage à travers la guerre. On peut trouver des propos tout à fait analogues chez Hitler. La guerre, je le cite, c'est la vie. Ça peut sembler un peu paradoxal. La guerre, c'est l'origine de toute chose, car le sang est signe de rédemption. De rédemption, autrement dit de rachat. Hein. Donc, dans un cas comme dans l'autre, on voit que ces deux dictateurs n'hésitent pas à faire l'apologie de la guerre. Autre point commun, et les dictateurs le font, mais comment dirais-je, cette idée, elle passe à tous les échelons, bien évidemment, du parti fasciste ou du NSDAP. Autre valeur commune, l'exaltation de la force, de la hiérarchie et de l'obéissance au chef. Ça va de pair avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui est de la condamnation de l'individualisme. L'individu n'est rien, l'homme n'existe que dans un tout, une société totale, et il existe parce qu'il y a des gens au-dessus de lui qui donnent un sens à sa vie et qui lui expliquent ce qu'il doit faire. Et là, on arrive à quelque chose qui est très important et qui permet de dire que le fascisme, comme le national-socialisme, sont bien des régimes totalitaires. Il y a, dans un cas comme dans l'autre, l'idée qu'il faut transformer pas seulement la société, hein, en général, quand il y a un changement de pouvoir politique et a fortiori de régime politique, les gouvernants ont des programmes de réforme avec l'idée qu'il va falloir donc transformer la société. Dans le cas du fascisme et du national-socialisme, le projet va beaucoup plus loin que cela, puisque l'idée c'est de changer l'homme, c'est de changer l'individu, c'est de changer les caractères, c'est de changer les comportements, c'est de changer la façon de parler, la façon de se comporter, hein, c'est tout cela. Autrement dit, il y a en Italie comme en Allemagne le projet de fabriquer un homme nouveau. Hein, ce rêve de création d'un homme nouveau est quelque chose qui est tout à fait caractéristique donc du totalitarisme fasciste et national-socialisme. Alors, excusez-moi, je vais encore devoir citer Mussolini, hein, mais c'est pour la bonne cause. Donc voilà ce que disait Mussolini dès 1917, au moment où il avait créé son propre journal, le Popolo d'Italia, après avoir quitté le Parti Socialiste. Le peuple italien est en ce moment une masse de minerais précieux. Il faut le fondre, le nettoyer de ses impuretés, le travailler. Une œuvre d'art est encore possible. Une œuvre d'art est encore possible. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que l'homme politique est comparable à un artiste qui doit agir sur le peuple comme l'artiste agit donc sur de la terre glaise pratiquement, sur de l'argile ou sur du marbre. Il faut un gouvernement, un homme qui aura le toucher délicat de l'artiste et le point de fer du guerrier, un homme sensible et un volontaire, un homme qui connaisse le peuple, aime le peuple, le soumette, y compris par la violence. Donc, il y a véritablement cette idée qu'il faut transformer les Italiens dès 1917, en l'occurrence, chez Mussolini. Ce thème de l'homme nouveau, on le trouve aussi, peut-être de manière moins importante, dans le national-socialisme. On peut, par exemple, citer une formule qui revient souvent dans la propagande pour les organisations de jeunesse nationale-socialiste. Voilà comment est présentée la jeunesse allemande. Elle doit être, je cite là encore, rapide comme le lévrier, endurante comme le cuir et dure comme l'acier. Donc il y a là encore cette idée qu'il faut changer le tempérament de la jeunesse, qu'il faut changer le caractère donc des Allemands. Alors c'est pour ça, c'est parce qu'il y a ce projet de fabrication d'un homme nouveau que l'éducation a une telle importance dans ces régimes fascistes et national-socialistes. C'est pour cela qu'ils, pratiquement dès qu'ils sont au pouvoir, ils entreprennent des réformes de l'éducation visant à fasciser le système d'enseignement. Et c'est pour cela aussi qu'en Italie comme en Allemagne, sont créées des organisations de jeunesse, donc qui encadrent la jeunesse de l'âge le plus tendre, de l'enfance, jusqu'à l'adolescence et même jusqu'à l'âge adulte. C'est pour ça aussi que le sport est quelque chose de particulièrement important dans ces régimes, parce qu'il y a cette idée qu'il faut changer les caractères, mais que le changement des caractères passe aussi par la transformation des corps, par la transformation des habitudes physiques. Alors, on peut peut-être voir quelques images qui sont précisément des illustrations de la manière dont ces régimes pensaient l'homme nouveau. Alors, l'homme nouveau qui d'ailleurs était essentiellement un homme, davantage qu'une femme. Ces régimes ont beaucoup moins pensé la place de la femme dans la société. Les femmes étaient essentiellement considérées comme étant des génitrices, susceptibles de faire des enfants, des mères au foyer, ou des femmes de guerriers qu'elles étaient susceptibles donc, d'aider. Alors, voici un premier exemple. Je vous disais que le sport donc a joué un rôle très important dans ces régimes. Il y a un sport qui a été particulièrement populaire en Italie dans l'entre-deux-guerres, c'est le calcio, le football, donc qui est resté populaire, comme vous le savez, bien après. Et il se trouve que, en plus, les Italiens ont été deux fois champions du monde de foot pendant la période. Donc vous imaginez bien que le régime a utilisé ces événements à des fins propagandistes. Alors, vous voyez ici un footballeur qui, donc, est à côté de son ballon, qui est présenté, donc, dans une perspective de contre-plongée, et on ne sait pas bien si le salut qu'il fait est un salut de sportif ou si c'est un salut fasciste. Donc, on voit très bien, là, donc, comment la propagande utilise, en l'occurrence, le sport. Et on voit cette image d'une jeunesse athlétique, donc, que cherche de promouvoir le régime. Là, vous avez une autre affiche de propagande allemande, cette fois, qui est intéressante. La légende dit « Nous construisons l'âme et le corps ». Nous construisons l'âme et le corps. Et donc là, on est vraiment au cœur de ce projet de fabrication d'un homme nouveau, de ce projet donc de révolution anthropologique, c'est-à-dire de révolution visant à changer l'homme. Nous construisons l'âme et le corps, et donc c'est une affiche pour les volontaires du travail. Et on retrouve sur cette affiche ce qui est une constante de cette propagande, c'est-à-dire une exaltation des corps qui sont souvent dénudés, qui le sont particulièrement dans le cadre de l'Allemagne nationale socialiste, parce que le régime fasciste est un régime plus puritain, aussi parce qu'il y a la présence de l'Église catholique, et donc on voit cette exaltation de la force et de la virilité. Autre image peut-être, ces photographies sont aussi tout à fait illustratives. Elles ont été tirées de deux films qui ont été réalisés, peut-être vos enseignants vous en ont-ils parlé, par une cinéaste qui s'appelait Leni Riefenstahl et qui était une cinéaste de grand talent, très très proche du régime national-socialiste, qui a réalisé notamment un film tout à fait intéressant sur les congrès de Nuremberg, sur le congrès de Nuremberg, c'est-à-dire ces grandes messes du parti national-socialiste, et également sur les Jeux olympiques de Berlin. Et ces images-là, donc ces photographies, sont des photographies d'athlètes filmées lors des JO de Berlin, et on retrouve cette même exaltation, donc de la force, de corps qui sont des corps athlétiques et de la virilité. Alors, je ne sais plus s'il y a d'autres images relatives à l'homme nouveau. Pour terminer sur cette question des idéologies, donc, il y a à l'évidence des points communs importants, ces valeurs, ces ennemis communs. Mais il y a aussi, bien évidemment, des différences. Alors, ces différences, quelles sont-elles? Bon, je vous les présente de manière très schématique. D'abord, ce sont des régimes nationalistes, mais la conception de la nation n'est pas la même en Italie et en Allemagne. Alors, elle n'est pas la même d'emblée, je dirais, déjà à l'époque où se forment les unités italiennes et allemandes, mais ce n'est pas la même conception non plus qui est véhiculée par les régimes fascistes. Pour les Italiens, nation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire langue commune, histoire commune, conception politique commune, une certaine idée de grandeur commune, des projets politiques communs. En Allemagne, c'est une conception raciale, c'est une conception biologique de la nation qui s'impose d'emblée. Et j'en viens à l'autre point qui constitue une différence radicale entre le fascisme et le national-socialisme, et c'est peut-être la différence majeure, eh bien c'est évidemment la question raciale, la question du racisme. La race, le racisme, est au cœur même, comme vous le savez, de la doctrine national-socialiste. Le racisme est très présent dans Mein Kampf, donc le livre qu'a rédigé Hitler dans sa jeunesse et qui va devenir le livre symbole du régime national-socialiste. Et le régime national-socialiste a de très nombreux idéologues qui vont proposer des constructions théoriques, pseudo-théoriques, autour de l'idée de race. C'est le cas de Daré, par exemple, qui deviendra ministre de l'agriculture. C'est le cas de Rosenberg aussi, dont vous avez peut-être entendu parler, qui écrit Le mythe du XXe siècle, dans lequel, eh bien, aussi, il développe ses idées. Alors, ces idées, quelles sont-elles? C'est l'idée qu'il existe une race allemande formée d'Aryens, race supérieure, et qu'il importe de protéger, donc, dont il faut protéger la pureté. Comment? Eh bien, d'abord en évitant le contact avec les autres races, ensuite en intervenant sur les évolutions biologiques, si je puis dire, de la race, par exemple en favorisant la stérilisation de certains malades, et c'est effectivement ce que le régime fera. Hein, il y a environ 400 000 personnes qui seront stérilisées parce que considérées comme porteuses de maladies héréditaires, en n'hésitant pas, pendant la Seconde Guerre mondiale, à pratiquer l'euthanasie de certains handicapés ou malades mentaux, et enfin, bien sûr, en s'efforçant d'assurer la domination, donc, de ce peuple aryen, de cette race allemande par rapport aux autres peuples. Dans le cadre de ce racisme, l'antisémitisme occupe une place particulièrement importante. Et cela constitue aussi une différence par rapport au fascisme italien. L'antisémitisme est au cœur, là aussi, de l'univers politique, de la doctrine du national-socialisme. socialisme. Alors, lorsque Hitler arrive au pouvoir, il n'y a pas qu'en Allemagne qu'il existe de l'antisémitisme. Celui-ci s'est développé dans de nombreux pays d'Europe, en France notamment, au XIXe siècle. Vous avez sans doute entendu parler de l'affaire Dreyfus. Hein, il y a eu des formations politiques antisémites, donc dans d'autres pays d'Europe. Mais la nouveauté de cet antisémitisme nazi, c'est la place qu'il occupe, comment dirais-je, c'est le fait qu'il devient le point central d'un projet politique, d'une doctrine politique. Pour Hitler, l'antisémitisme est une clé d'explication du monde, de l'histoire. Les Juifs sont la cause de tous les maux de l'humanité. Les Juifs sont la cause de tous les maux dont souffre l'Allemagne. Et il y a chez Hitler cette idée, et c'est cette idée qui va se concrétiser pendant la Seconde Guerre mondiale, à la faveur de la Seconde Guerre mondiale, il y a au fond cette idée que le salut de l'Allemagne et le salut du monde passe par la disparition des Juifs. Hein ? C'est pour cela qu'il y a un historien israélien qui a qualifié l'antisémitisme nazi d'antisémitisme. Cet historien israélien s'appelle Shaul Friedlander et il a publié récemment une histoire de la Shoah en Europe, dont vos professeurs vous ont peut-être parlé, qui est un livre très important. Et donc, antisémitisme rédempteur, ça veut dire qu'on suppose que la rédemption, le rachat, le salut du monde passe donc par la disparition des Juifs, ou en tout cas par la discrimination, par une politique de stigmatisation. Donc, l'antisémitisme existait bien évidemment. Il y avait eu des politiques antisémites d'État qui avaient été pratiquées par certains régimes, notamment dans la Russie tsariste, mais jamais l'antisémitisme n'avait eu une telle centralité dans une doctrine politique. Et de ce point de vue-là, vous avez une différence majeure donc entre le fascisme et le national-socialisme. Alors, ce qu'on peut dire du fascisme, plus brièvement, eh bien, c'est que le racisme est relativement étranger au fascisme jusqu'en 1935-1936. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'Italiens racistes, qu'il n'y a pas de fascistes racistes, mais dans la doctrine du fascisme, on ne théorise pas cette idée de race. On s'en tient à ces concepts, donc, de nation. Il arrive même que Mussolini se moque de Hitler, justement, à propos de ce qu'il considère comme des élucubrations raciales. Et puis, on aura peut-être le temps d'en parler, à partir de 1937-1938, l'Italie va à son tour devenir un État antisémite et raciste. Et il faudra qu'on essaye de comprendre pourquoi il y a ce tournant. Parce qu'initialement, donc, le fascisme italien n'est pas raciste, n'est pas antisémite. Alors j'en viens maintenant au deuxième point. Donc, jusqu'ici, j'ai essayé de vous présenter donc cet univers mental, cette idéologie de ces régimes fascistes. Venons-en maintenant au régime en tant que tel. Je dispose de combien de temps à peu près encore ? Une vingtaine de minutes ? Moins que ça. D'accord. Alors, je vais aller peut-être plus rapidement. Essayons de caractériser donc ces régimes comme expérience nouvelle sur le plan politique. À l'évidence, la première caractéristique commune, et c'est cohérent avec leur conception idéologique, eh bien, c'est qu'ils suppriment la démocratie dès que ces partis et leur chef arrivent au pouvoir. Très rapidement, pour ce qui est l'Allemagne nationale socialiste, en quelques mois, on supprime donc les institutions démocratiques. Pour ce qui est de l'Italie, il faut deux ans et demi, après l'affaire Matteotti et après ce qu'on appelle le tournant fascistissime, hein, c'est-à-dire l'adoption de lois qui sont des lois qui suppriment toutes les libertés en 1925-1926, eh bien, là, c'en est fini de la démocratie. Je n'entre pas dans le détail des institutions pour mettre l'accent sur l'autre caractéristique de ces systèmes de domination politique, à savoir la présence de partis uniques. Les partis, donc fascistes, national-socialistes, jouent un rôle essentiel. Et ces partis sont des partis vraiment nouveaux. Il y a toute une histoire des partis politiques dans l'Europe démocratique. Ces partis n'ont rien à voir avec les partis démocratiques. D'abord parce qu'ils naissent comme partis armés. Ils s'adossent, lorsqu'ils sont créés, à des milices qui pratiquent systématiquement la violence comme une arme politique. Et ça, c'est une première spécificité donc de ces nouvelles formations politiques. On peut dire que la violence est inscrite dans l'identité politique de ces partis. Alors on peut voir une image qui est une couverture d'une revue donc destinée à la jeunesse, destinée à une jeunesse étudiante, où on voit une photographie d'expédition punitive. Or, c'est une couverture de revue qui date donc de 1931, et on voit comment donc ces organisations de jeunesse cultivent la mémoire de ces expéditions punitives, cultivent la mémoire donc de ce passé de violence, de ce passé squadriste. L'autre caractéristique de ces partis, alors je ne développe pas cela, vous l'avez sans doute étudié, mais ces partis donc sont accolés à des formations paramilitaires, la milice pour l'Italie, la SA puis la SS, donc pour ce qui est du national-socialisme. Et ces formations, surtout pour les SS en Allemagne, vont prendre une place très importante, de plus en plus importante, au sein du régime, pour ce qui est des SS devenant vraiment un État dans l'État. Deuxième caractéristique de ces partis, ce sont des partis de masse, c'est-à-dire que, au départ, ils réunissent une élite, et à mesure que ces régimes s'installent au pouvoir, eh bien, une population de plus en plus nombreuse s'inscrit donc dans ces formations politiques. Alors, quelques chiffres. Il y a 8 millions d'inscrits au NSDAP en 1939. Il y en a 2,6 millions au Parti national fasciste, à la même époque, donc à la fin des années 30. Donc on peut dire qu'il s'agit véritablement de parti-société. De parti-société, c'est-à-dire que l'ensemble de la société est représenté à la fin des années 30 à l'intérieur de ces partis. Alors pourquoi y adhère-t-on ? Les premiers adhérents, les premiers inscrits de ces partis, les rejoignent dans les années de conquête du pouvoir parce que, avec un esprit militant, parce qu'ils partagent les convictions donc, qui sont ces idées que je vous exposais au début. Mais à mesure que ces partis restent, que ces régimes restent au pouvoir, on rejoint le parti fasciste parce que cela devient nécessaire. Parce qu'il faut en être pour pouvoir continuer à exercer un emploi dans la fonction publique, pour pouvoir remporter telle ou telle, obtenir telle ou telle fonction. Et les Italiens s'amusent sur le sigle de PNF, Parti National Fasciste, à dire PNF, cela veut dire per necessità familiare, par nécessité familiale. Autrement dit, on est au parti fasciste parce qu'on veut pouvoir continuer à travailler, tout simplement, et à nourrir sa famille. Alors, ça ne veut pas dire que ces presque 3 millions dans un cas, 8 millions dans l'autre, ne sont pas des gens convaincus. Il y a parmi eux un très grand nombre de militants au sens fort du terme, de gens qui sont convaincus de l'idée fasciste, mais il y en a aussi beaucoup qui sont là parce qu'il devient nécessaire donc de rejoindre ces organisations de masse. Pourquoi ? Eh bien, parce que précisément, la fonction de ces organisations, c'est d'exercer un contrôle sur la société. C'est d'exercer un contrôle sur la société, c'est de mobiliser la société au service de certaines idées, pour certaines causes, pour certaines batailles. Et ces partis fascistes et nazis jouent ce rôle-là. Alors, on peut voir peut-être d'autres images. Bon, ce sont des images que vous avez certainement vues dans vos manuels, mais qui sont, je crois, suffisamment parlantes. On voit bien le rôle que ces organisations peuvent avoir d'exercice d'une discipline sur les foules, hein, de chorégraphie, véritablement. Donc, ces formations, façonnent véritablement les foules, hein, comme un artiste pourrait effectivement transformer la glace. Car vous voyez dans l'image de gauche, donc, c'est une photographie qui a été prise dans un stade, et on voit que la population forme donc les lettres du mot dux, donc duce, chef, d'une manière relativement habile. L'image de droite vous montre un congrès du Parti national socialiste à Nuremberg, et on voit également cette foule qui ressemble véritablement à une armée. Ce qu'on peut dire, il y en a peut-être d'autres, voilà, autre exemple, là ce sont des enfants, cette fois les organisations de jeunesse, qui forment le M de Mussolini, hein, donc petit régiment de soldats que sont ces organisations de jeunesse fasciste, au service d'une idée, au service d'un culte, qui est le culte de Mussolini. Alors, ce qu'il faut retenir de ces grandes manifestations, c'est qu'elles ont une dimension proprement religieuse. Hein, et dans ces organisations se fabrique, je vous disais qu'au départ les gens y adhèrent quelquefois parce qu'ils sont obligés d'avoir la carte, mais ils se livrent quand même à ces réunions communes, à ces rituels communs, et donc ces organisations fonctionnent un peu comme des églises, hein, c'est-à-dire qu'il y a une vraie ferveur religieuse au moment de ces grandes réunions. Et il arrive que certains Français, certains intellectuels français, alors quelquefois des gens d'extrême droite, mais aussi des démocrates, aillent assister à ces congrès du Parti National Socialiste à Nuremberg, et en général, ils reviennent très très impressionnés, hein, par ce qu'ils ont vu, par ce climat de ferveur tout à fait étonnant, par cette espèce de communion qu'il y a entre la foule, donc, et le dictateur. Donc on peut dire, sans exagérer, qu'il y a une vraie dimension religieuse, hein, et que ces formations politiques contribuent donc à entretenir cette ferveur autour de l'idée nationale-socialiste ou de l'idée fasciste. Autre caractéristique de ces régimes, le culte du chef. Le culte du chef, bon, c'est un aspect dont vous avez sans doute déjà parlé, qui passe par la langue, qui passe par des discours, qui passe par l'éducation, qui passe aussi par des images. Hein. Il faut savoir, et ça c'est quelque chose qui frappe aussi les gens qui vivent en démocratie lorsqu'ils vont en voyage en Italie ou en Allemagne, il y a des portraits d'Hitler ou de Mussolini absolument partout, hein, et les portraits les plus divers. Alors, voyons peut-être là une ou deux images. Bon, là, on est toujours, ce sont toujours des photographies dans un cas, affiches dans l'autre, qui vous montrent donc que c'est cette liturgie fasciste, ces rituels collectifs. Une autre peut-être. Ça, c'est assez, ce sont des photographies qui sont assez intéressantes. À gauche, ce sont des photographies qui viennent de collections privées, donc qui ne sont pas des photographies officielles, hein, qui n'ont pas été publiées par la presse, mais qui ont été retrouvées dans des archives familiales après le fascisme. Et vous voyez que celle du haut vous montre un mariage, et lors de ce mariage, donc un rite cette fois religieux, familial et privé, et lors de ce mariage, eh bien, il y a D'abord, le marié lui-même est en uniforme fasciste et il y a des invités, des parents peut-être, qui font le salut fasciste. En bas, c'est un enterrement. Et même lors d'un enterrement, il y a des Italiens donc qui font le salut fasciste, ce qui montre bien à quel point ces rituels ont imprégné donc les mentalités et sont présents. À droite, c'est une photographie qui est encore plus intéressante puisqu'on voit que la croix gammée est rentrée dans une église en Allemagne, ce qui pour l'Italie, et là ça peut être une différence, aurait été quelque chose de tout à fait impensable. Mais le rapport à la religion, ça je n'aurai pas le temps d'en parler, on en parlera peut-être dans la discussion, fait partie des différences donc entre ces deux régimes. Culte du chef, donc, voilà, qui se manifeste par exemple par cette photographie d'un Mussolini chef de guerre sur un cahier d'écolier. Donc, la politique allait jusque sur les couvertures des cahiers d'écolier. Ne parlons pas, bien sûr, des manuels scolaires. Une autre encore. Celle-ci est assez intéressante, puisqu'on voit quand même aussi l'inventivité sur le plan propagandiste de ces régimes, puisque vous voyez que c'est une projection de lumière qui est réalisée donc dans le cadre d'un grand meeting. Vous ne le distinguez peut-être pas, mais il y a une foule qui se trouve devant le dôme de Milan, qui est la cathédrale de Milan. Et donc, ce régime ose quand même, en dépit de ce que je vous disais avant, c'est-à-dire de ce rapport à la religion catholique, qui est respectueux en Italie alors qu'il est conflictuel en Allemagne, eh bien, ce régime ose quand même projeter la silhouette du dictateur sur le dôme de Milan. Donc il y a comme une surimposition de l'image du fasciste, de celui qui incarne le fasciste, donc sur un bâtiment religieux, sur la religion. Autre image peut-être. Ça, c'est une image qui est très intéressante parce qu'elle a été censurée. Donc, ce n'est pas non plus une image officielle. C'est une image qui a été écartée par le Minculpop, le ministère de la Culture Populaire, qui contrôlait la propagande. Et est-ce que vous... je ne sais pas si je peux ouvrir un tout petit dialogue maintenant, même si je n'ai pas terminé la conférence. Avez-vous une idée de la raison pour laquelle cette image a pu passer à la trappe, a pu être censurée? Oui. Je ne crois pas, parce que ce qu'on voit au premier plan, mais ça vous ne le voyez pas, ce sont des officiels, donc des gens qui ont l'habitude d'être pris en photo sur les magazines. Oui. Oui. Alors, il est petit, il était effectivement petit. Ça n'empêche pas forcément de faire une carrière politique, comme vous le savez, mais il a l'air petit. Là où vous avez tout à fait raison, c'est qu'il a l'air petit par rapport à quoi? Pardon? Alors, l'angle n'est pas terrible, en effet, mais surtout, par rapport à cette image qu'on voit au fond, qui est quoi? Qui est sa propre image, qui est sa propre image. C'est-à-dire qu'il y a une image qui participe de ce culte du Duce, qui est son propre portrait stylisé, et il y a l'homme réel, et du coup, l'homme réel, par rapport au mythe que lui-même a construit, apparaît comme tout à fait dérisoire. C'est mon hypothèse. On n'a pas les explications qui ont accompagné l'acte de censure, mais je pense que il y a quelque chose d'un peu ridicule à voir ce Duce, qui est comme ça, en plus dans une position un peu de paysan, face à cette image de guerrier que ces services de propagande donc ont contribué à construire. Donc la comparaison entre le mythe et l'homme réel, là, se fait plutôt au détriment de l'homme réel. Alors, le culte du chef a été quelque chose de très important. On a de nombreux témoignages de cela. Les historiens ont beaucoup réfléchi sur les ressorts, les moteurs de ce culte du chef. Et l'un des ressorts, en Italie comme en Allemagne, était probablement ce qu'on appelle le charisme. Le charisme, c'est-à-dire ce rapport de fascination qui existait entre le dictateur et ses interlocuteurs, les populations. Or, ce qu'expliquent assez bien certains historiens, et notamment Jan Kershaw, qui est un historien spécialiste du national-socialisme, eh bien, c'est que ce charisme, c'est une relation qui a été en partie construite. C'est-à-dire qu'il y a charisme, il y a fascination, parce qu'il y a une attente de la population, parce qu'il y a une attente des individus, et qu'ils placent dans les dictateurs, et qu'ils vont, comment dirais-je, investir cette attente, ce désir, dans la personne des dictateurs. Je terminerai l'examen de ces régimes. Je ne parle pas de la répression, on pourra en parler dans la discussion, peut-être. Au niveau de la répression et des pratiques de répression qui sont terribles en Italie comme en Allemagne, il y a là des différences importantes, avec un régime répressif qui est beaucoup plus dur, hein, et qui passe par la mise en place d'un système concentrationnaire en Allemagne, alors qu'en Italie, bon, il y a aussi une police qui joue un rôle très important, mais disons qu'il est moins abouti, qu'il est moins élaboré. Et je terminerai en évoquant un dernier point, qui est d'ailleurs le domaine sur lequel portent mes propres recherches, à savoir l'impérialisme, donc, et le racisme. On va passer encore cela. Alors, il faut peut-être revenir en arrière. C'est mon plan, en fait. On avance. Alors, je ne sais pas comment on peut revenir en arrière. Bon, peu importe, l'idée était de revenir à la diapositive du plan. Est-ce qu'on peut comparer ces régimes de ce point de vue-là, sachant que je vous ai dit qu'au départ, le national-socialiste était effectivement fondé sur une doctrine raciste et antisémite, et cela n'était pas le cas pour le fascisme italien. D'abord, il y a une dimension impérialiste dans ces deux régimes, mais cet impérialisme procède de logiques différentes. Ce sont des régimes bellicistes, tous les deux, on l'a dit, et il y a l'idée qu'il faut conquérir, pour ce qui est de l'Allemagne, il faut conquérir donc, d'une part, en Europe, certains territoires pour réaliser la Grande Allemagne, c'est-à-dire pour réunir tous les peuples germanophones, et d'autre part, il faut conquérir donc ce qu'on appelle le Lebensraum, c'est-à-dire l'espace vital pour assurer la survie, la domination, l'expansion de ce peuple allemand, de ce peuple aryen. Donc il y a une liaison étroite entre la doctrine de la race et l'impérialisme national-socialiste. Il y a une forme d'impérialisme aussi dans la doctrine fasciste à la base, qui est étroitement liée à la tradition nationaliste. En effet, depuis la fin du XIXe siècle, l'Italie rêve d'avoir des colonies, rêve d'être une puissance coloniale. Il y a cette idée que les Italiens doivent avoir ce qu'on appelle une place au soleil, hein, c'est-à-dire des territoires, donc pour pouvoir implanter leur population, plutôt que de faire émigrer les gens aux États-Unis ou en Europe. Il faut avoir des colonies où les Italiens pourront aller s'installer et fonder des familles. Cette idée est une idée ancienne. Et une fois le fascisme au pouvoir, eh bien Mussolini va s'employer donc à réaliser ce rêve ancien de conquête coloniale. Et il le fait en provoquant une guerre contre l'Éthiopie en octobre 1935. Alors, la question que vous pourriez me poser est de savoir qu'est-ce que cette guerre a de typiquement fasciste, puisqu'après tout, certaines démocraties ont aussi conquis des colonies au XIXe siècle, et c'est ce que fait le fasciste, donc lorsqu'il lance ses troupes en octobre 1935 en Éthiopie. Toutes les guerres de conquête coloniale ont été en général atroces. Cette guerre d'Éthiopie a été, et ça c'est un aspect de l'histoire qu'on ne connaissait pas très bien jusqu'à il y a quelques années, cette guerre d'Éthiopie a été particulièrement atroce. C'est à la fois une guerre coloniale, une guerre fasciste et une guerre raciste. Des lois raciales, une législation antisémite. Et pour faire court, ce sont des lois qui sont assez proches des lois allemandes et qui sont assez proches des lois qu'adoptera le régime de Vichy. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, des lois d'exclusion professionnelle. Les enfants juifs et les enseignants sont chassés de l'école. Il y a des lois de spoliation, c'est-à-dire de confiscation des biens et du patrimoine des juifs. Avec deux différences. En Allemagne, les juifs perdent leur citoyenneté alors qu'ils la conservent en Italie. Et, comment dirais-je, il y a également une violence de rue, violence physique, qui est orchestrée, qui est organisée par le régime à l'encontre des juifs avant la Seconde Guerre mondiale, alors que ce n'est pas le cas en Italie. On ne cherche pas à susciter d'épisodes de violence à l'encontre des juifs. Mais du point de vue des législations, les lois sont relativement comparables et les lois sont appliquées en Italie, sévèrement. Ce ne sont pas des lois qui sont adoptées et puis qu'on oublie, elles sont mises en œuvre par l'administration. Il y a une véritable persécution des juifs. Alors pourquoi ? Pourquoi ce régime, qui n'était pas antisémite, le devient-il en 1938 ? Il le devient, c'est en tout cas l'analyse que je fais, que nous sommes quelques-uns à partager, il le devient précisément parce que ce régime est un régime totalitaire, parce que Mussolini a ce projet totalitaire, qu'il veut changer la société et qu'il veut changer l'homme, et il s'aperçoit en 1938 que les choses vont trop lentement. Trop lentement. C'est-à-dire qu'il a l'impression, Mussolini, que Hitler est en train, beaucoup plus rapidement que lui, de fabriquer cette société totalitaire. Et du coup, Mussolini se dit qu'il faut inventer un nouvel ennemi en Italie. Et ce nouvel ennemi, ce sont les Juifs. Ce sont les Juifs qui sont très peu nombreux en Italie, moins de 50 000, mais contre lesquels, on construit cet arsenal de mesures qui va en faire donc des citoyens de deuxième zone. Donc, il y a l'idée, au fond, qu'avec les lois raciales, on va remobiliser les élites et on va inventer un nouvel ennemi. Je conclurai véritablement en vous montrant quelques images, simplement, qui, à mon sens, sont quand même assez illustratives des différences qu'il y a eu entre ces deux régimes. Car les deux étaient des régimes totalitaires, mais le totalitarisme national-socialiste a été beaucoup plus abouti et en moins de temps que le totalitarisme fasciste. Et il me semble que cela est notamment perceptible à travers l'art, puisque, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais en Allemagne, il y a une politique de contrôle de l'art, il y a une politique artistique, il y a un art officiel qui n'existe pas en Italie. En Italie, les artistes ont une beaucoup plus grande liberté, donc créatrice. Et je trouve que cela est particulièrement visible ici. Vous avez à droite un buste donc de Hitler, qui est d'une facture, vous le voyez, tout à fait classique. Et à gauche, ce buste de Mussolini, qui a été fait par un artiste avant-gardiste, futuriste, qui s'appelle Buste à 360 degrés. Parce que d'où que vous soyez, vous voyez toujours exactement la même chose. Et on voit que le dictateur accepte ce type de représentation tout à fait avant-gardiste, ce qui montre bien quand même que ce totalitarisme n'est pas allé suffisamment loin. Et c'est encore plus visible sur cette autre image, qui vous montre deux tableaux. Alors, le premier, vous voyez que ce sont deux crucifixions qui ont été réalisées par deux grands artistes. L'un, celle de gauche, donc, a été peinte par Nolde, Nolde, N-O-L-D-E, qui était un peintre allemand dont l'œuvre a été présentée, je ne sais pas si vos enseignants vous ont parlé de cela, en 1937, dans une exposition qui s'appelait l'exposition des artistes dégénérés, où le régime avait voulu exposer justement toutes ces œuvres d'art qu'il considérait comme étant décadentes. Hein. Et Nolde figurait parmi ces artistes dégénérés. Or, vous voyez que le tableau de droite, alors cette fois qui a été réalisé par un artiste italien qui s'appelle Guttuso, qui est un artiste sicilien, eh bien, c'est une œuvre qui peut apparaître comme étant, d'un point de vue formel, tout aussi novatrice, hein, voire irrespectueuse d'un point de vue religieux. Or, cette œuvre a obtenu un prix pendant la Seconde Guerre mondiale, un prix artistique dans l'Italie fasciste. Donc, sur le terrain de l'art, on peut voir la différence donc, entre ces deux régimes et on peut voir le fait qu'effectivement ce processus totalitaire de contrôle donc, de la société et des esprits a été beaucoup plus achevé donc, dans l'Allemagne national-socialiste. Voilà, on va s'arrêter là et je suis prête donc, à répondre à vos questions.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais mettre le micro. La première question est toujours un peu compliquée.